Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal des lycéens, dirigé par Pascal Lassalle, préenregistré le 27 mars 2015, diffusé samedi 4 avril de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30, dimanche dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos courriers seront les bienvenus. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Bonjour chers auditrices et auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce Libre Journal lycéen, dirigé aujourd'hui par Pascal Lassalle, bien sûr sur votre radio préférée, Radio Courtoisie. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui finira par devenir un habitué de cette émission, à savoir Jaroslav Liebedinski. Jaroslav, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle aux auditeurs et auditeurs qui n'auraient pas entendu une émission que nous avions enregistrée ensemble il y a bientôt un an, hein, je crois que c'était au printemps dernier, justement sur des éléments de l'histoire de l'Ukraine, hein, sur cette question hautement passionnelle et clivante, hein, d'une actualité brûlante et qui est souvent débattue au sein de cette radio avec des sons de cloche différents. Hein, notre émission en étant un, de certaine manière, nous avions abordé un petit peu donc des éléments qui touchent à l'histoire de l'Ukraine, étant donné que je rappelle que vous êtes un historien, avant tout spécialiste des cultures guerrières de la steppe et du Caucase, auquel d'ailleurs vous avez consacré un nombre conséquent d'ouvrages, aux éditions Errance principalement, mais aussi vous êtes chargé de cours d'histoire de l'Ukraine à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris, l'INALCO, les fameuses langues zo.
Oui.
Hein, donc vous avez écrit une trentaine de livres sur tous ces sujets, une histoire de l'Ukraine et de la Crimée aussi, récemment chez l'Harmattan, il y a un peu plus d'un an. Vous êtes directeur d'ailleurs des collections Présence ukrainienne et Voix du Caucase aux éditions de l'Harmattan. Et vous animez aussi un cercle de recherche intitulé Galia Sarmatia, qui examine les traces des Sarmates et des Alains en Occident à l'époque des grandes évasions. Là aussi, vous avez écrit plusieurs ouvrages dans ce sens. Alors, il y a, lors de cette dernière émission que nous avions réunie, nous avions abordé l'idée d'en faire une nouvelle sur justement ce qui est un peu votre violon d'Ingres, à savoir donc cette vaste question de ce que René Grousset avait intitulé l'Empire des Steppes, c'est-à-dire toutes ces cultures guerrières et cavalières nomades qui ont pu parcourir les vastes étendues eurasiatiques depuis la plus haute antiquité, je dirais même depuis la proto-histoire. Alors, première question que je serais tenté de vous poser, cher Jaroslav, comment en vient-on, de certaine manière, à s'intéresser aux cultures nomades de la steppe?
Alors, je peux vous répondre très simplement que ce sont mes origines ukrainiennes qui m'ont conduit à m'intéresser d'abord aux Scythes et ensuite, parce que c'était inévitable, au peuple de la steppe contemporain des Scythes et souvent parents des Scythes et également à leurs successeurs qui, comme on le verra tout à l'heure, se sont situés dans le cadre d'une même civilisation, d'un même ensemble de cultures. J'ai trouvé une réponse beaucoup plus littéraire et élégamment formulée sous la plume du grand poète polonais Mickiewicz, parlant d'un de ses collègues, qui était le poète polonais Zaleski, à propos de son poème qui s'intitulait « L'esprit de la steppe ». Et voici ce que dit Mickiewicz à propos de Zaleski. Il dit que c'est l'Ukraine qui, par un lien mystérieux, a attaché son âme à ses steppes, à ses voies que prenaient les conquérants du monde, à ses chemins où se promenait la colère de Dieu. Il y a évidemment tout le romantisme des steppes et des cultures nomades qui a joué un certain rôle dans l'intérêt que j'ai éprouvé pour elles.
Oui, vous avez eu une période, je crois, dans les années 80, où vous êtes d'abord vraiment intéressé à l'Ukraine. Hein, c'est une découverte, vous collaboriez à cette revue de la communauté franco-ukrainienne, ensuite pour développer un petit peu les résultats de recherche sur un plan plus académique, hein, plus universitaire, à travers les nombreux ouvrages donc, que vous avez consacrés à cette question comme je le disais tout à l'heure, avant tout aux éditions Errance, mais aussi aux éditions L'Harmattan. Et d'ailleurs, bon, nous pourrons reciter plus, les titres de plusieurs de vos ouvrages, sinon les auditrices et auditeurs intéressés pourront se référer notamment bon, à votre fiche personnelle sur Internet. Mais je voudrais, si on ne devait qu'en avoir qu'un, de cette manière, je conseillerais l'ouvrage que vous avez écrit en 2004, avec une édition revue et corrigée en 2007, intitulé « Les nomades ». Les peuples nomades de la steppe, des origines aux invasions mongoles, 9e siècle avant Jésus-Christ, 13e siècle après, donc aux éditions Errance bien sûr. Comme d'habitude chez Errance, un ouvrage extrêmement riche, surtout au niveau iconographique, étant donné que vous êtes polyglotte, de par le fait que vous êtes russophone et ukrainophone, vous avez aussi accès, surtout à la différence de nombreux autres collègues, à des sources donc, russes et ukrainiennes qui sont très riches, je crois, sur cette question-là, entre autres.
Voilà, l'ouvrage que vous évoquez est en fait une présentation peuple par peuple, plus ou moins dans l'ordre chronologique, des principales cultures qui ont écrit cette histoire des steppes et qui souvent ont contribué à écrire toute l'histoire de l'Eurasie.
Je crois que c'est une très très belle invitation à approfondir après certains sujets, notamment... Alors, bien entendu, ces nomades, ces peuples nomades, bon, j'ai intitulé cette émission un petit peu « Notre héritage nomade ». Il est vrai que lorsqu'on évoque un peu l'héritage le plus ancestral des peuples qui ont fondé l'association européenne, on pense avant tout aux peuples sédentaires. On pense aux grands rameaux de l'indo-européanité qui ont accouché de grandes civilisations urbaines ou sédentaires. Bon, on pense bien sûr à la Grèce, on pense à Rome, on pense bon, au monde celtique, germanique, encore le monde celtique et germanique était bien sûr des mondes des forêts. Mais on oublie, je crois, trop souvent cet univers, ce sort d'Atlantide, relativement méconnu, que furent ces civilisations steppiques. Et qu'on voit avec certains préjugés. Certains préjugés un peu hérités du positivisme, c'est-à-dire bon, comme des peuples plus arriérés, hein, que leur contrepart sédentaire, en quelque sorte. Que pourriez-vous dire
Alors, très clairement, dans l'imaginaire occidental, dans la tradition occidentale, nomade est un terme quasiment péjoratif. Le nomade est défini par une série de carences. Le nomade n'a pas de ville, le nomade n'a pas de maison fixe, le nomade n'a pas d'agriculture. Et donc, le nomade est souvent présenté comme un être effectivement arriéré, ou en tout cas au mode de vie très primitif, errant en quelque sorte en lisière des vraies civilisations, que ce soit la civilisation occidentale, la civilisation iranienne et orientale en général, la civilisation chinoise, et de temps en temps fondant sur ces populations sédentaires pour les conquérir, les massacrer, faire du butin, etc. Et on oublie complètement le fait essentiel que ces populations nomades, très variées comme on va le voir, ont développé sur plus de 3 millénaires une civilisation propre, une civilisation comparable dans un genre très différent à la civilisation occidentale, à la civilisation chinoise, à la civilisation précolombienne, c'est-à-dire un ensemble de cultures avec sa propre logique et qui a atteint un degré de développement non négligeable.
D'accord. Il est vrai qu'aussi, bon, dans l'imagerie occidentale, nomade, ça rappelle souvent le danger venu de l'Est. Le danger steppique, hein, depuis les Huns d'Attila jusqu'aux Mongols de Genghis Khan, de Tamerlan, etc. Donc il y a aussi bon, cette imagerie, ces clichés qui font du nomade, bon, l'éternel adversaire en tout cas des cultures sédentaires européennes, à des moments réguliers hein, de l'histoire de l'Europe, de l'Antiquité, tout au long du Moyen-Âge.
Bien sûr, le nomade a aussi, dans l'imaginaire occidental, les traits d'un Asiate. C'est le péril jaune dans sa version antique et médiévale. Donc vous avez cité les Huns d'Attila, les Mongols.
Il y en a beaucoup d'autres.
Pourquoi se souvient-on particulièrement de ceux-là? Parce qu'ils ont été les plus destructeurs. Et d'une certaine façon, les plus primitifs. On a beaucoup moins retenu la contribution à la culture mondiale des Scythes, des Sarmates, de certains peuples turcs. Beaucoup plus sophistiqués que ne l'étaient les Mongols de Genghis Khan. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que toute la première partie de l'histoire de la civilisation des steppes et des peuples nomades est liée à des populations qui étaient des populations de race blanche et de langue indo-européenne, et plus spécifiquement de langue iranienne. En fait, des espèces d'Iraniens nomades, d'Iraniens extérieurs, comme le disait Gershman, cousins des Iraniens de la Perse achéménide.
Voilà, mais bon, là aussi, je crois qu'il faut, il faut préciser pour nos auditeurs, bon, iraniens, on n'entend pas aujourd'hui les peuples qui habitent l'Iran actuel, ce sont souvent des peuples qui ne sont pas d'ailleurs mélangés à des substrats précédents, hein, des substrats bon, asianiques, comme on pouvait trouver, je crois, bon, dans la Perse et dans la Médie antique, de cette manière. Enfin, c'est totalement différent de ces empires sédentaires qui ont pu naître, notamment bon, l'Empire perse.
En effet, et alors il faut parler de moins de peuples iraniens que de peuples de langue iranienne,
ouais,
ou
iranophones,
ils sont très différents. Ouais. Et ceux de la steppe, qui sont donc les Scythes, les Sarmates, les Alains, les Sasses d'Asie centrale, etc., ne sont pas des peuples qui viennent d'Iran. Hein, de même que les langues iraniennes ne se sont pas formées en Iran, mais précisément dans les steppes, ce sont des peuples qui se sont constitués à partir de l'âge du bronze dans les steppes d'Europe orientale et d'Asie centrale.
Et d'ailleurs, bon, vous précisez, hein, vous n'hésitez pas aussi dans vos ouvrages bon, à recourir bon, à l'éclairage de l'anthropologie et montrer que ces peuples, notamment au physique, ces peuples européoïdes, étaient souvent aussi de complexion claire, comme les ont décrits mains auteurs, que ce soit des auteurs romains, que ce soit des auteurs chinois. Donc voilà, des auteurs, des peuples qui physiquement avaient des physiques nord-européens, très fréquemment en tout cas, même si c'était beaucoup plus varié que ça. Bon, vous avez montré qu'il y a aussi des métissages. De par le mode de vie nomade en tant que tel, et c'est les modes de regroupement qu'il implique.
Bien sûr, les auteurs, qu'ils soient,
en tout cas, voilà.
Oui, les auteurs antiques, qu'ils soient grecs, romains, chinois, etc., ont insisté sur les types qui leur paraissaient les plus exotiques et les plus différents du leur, mais nous avons des confirmations archéologiques de ces témoignages, notamment la découverte dans l'Altaï, donc à l'extrême pointe orientale du territoire de ces nomades européoïdes, à la frontière de la Mongolie actuelle, de corps bien conservés et portant encore des restes de cheveux blonds, par exemple. Donc ces types clairs ont effectivement existé.
Oui, en fait, c'est intéressant, parce que lorsque, bon, à la lecture de vos ouvrages, bon, on voit l'extension géographique de ces peuples indo-européens vers les profondeurs de l'Asie. Et on a même des fois des je ne sais pas ce que vous pensez des thèses de Yoshida et Kobayashi, je crois, c'est deux disciples de Dumézil qui trouvaient des traces de trifonctionnalité dans les panthéons coréens, voire japonais, ce qui pourrait laisser penser qu'il y aurait eu des contacts entre peuples scythiques, des peuples scythiques seraient approchés de la mer du Japon, en tout cas seraient allés beaucoup plus loin que le nord de la Mongolie ou alors une partie de la Sibérie.
Alors, en faisant de la macro-histoire, oui. Qui ferait bien sûr hurler les spécialistes, parce qu'on est obligé de beaucoup simplifier, au néolithique et à l'âge du bronze, donc à la fin de la préhistoire, on a un déplacement massif vers l'Est des populations de langue indo-européenne qui sont probablement originaires des steppes d'Europe orientale. C'est en tout cas la théorie aujourd'hui dominante. Et donc, on a une colonisation d'indo-européens qui sont des sédentaires encore, mais des sédentaires mobiles. Vers l'Est, jusqu'aux frontières de la Mongolie actuelle, peut-être jusqu'au nord de la Chine, dans certaines parties de la Sibérie, etc. En tout cas, c'est un mouvement qui a été très loin. Et c'est sur cette base de colonisation européenne qu'ensuite, à partir du premier millénaire avant Jésus-Christ, se constituent ces cultures nomades, qu'on voit ensuite se développer et jouer un rôle de plus en plus important dans les steppes.
C'est extrêmement intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on passe d'un état de semi-sédentarité à un état nomade, et non pas le contraire.
Exactement.
Un schéma positiviste, un schéma progressiste classique, quoi, de certaine manière.
Exactement. On a tendance à penser que le nomade est une espèce d'arriéré, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a raté les tournants majeurs de l'évolution, qui a raté le tournant de l'agriculture, qui a raté le tournant de l'urbanisation. Ce n'est pas vrai du tout. Les ancêtres des gens qui apparaissent dans l'histoire au premier millénaire avant Jésus-Christ, sous le nom de Scythes, de Sasses, de Sarmates, etc., étaient des paysans, résidaient dans des villages, avec parfois des structures proto-urbaines assez importantes. Ce sont des gens qui, vers 900, 800 avant Jésus-Christ, abandonnent ce mode de vie pour en adopter un autre, avec un habitat mobile, avec une économie fondée sur l'élevage, principalement l'élevage du mouton et du cheval, et ceci pour exploiter un milieu particulier qui est le milieu steppique, où l'ampleur des déplacements est évidemment indispensable.
D'accord. Ces dernières années, ces dernières décennies, on a fait des découvertes intéressantes, ont été faites, je crois, en Russie, notamment sur des sites archéologiques bon, qui montreraient une trace d'urbanisation. J'avais entendu parler de cette fameuse ville d'Arkhaïm. Avez-vous une petite idée de cette ville par rapport à ce que vous disiez justement serait-elle, aurait-elle été fondée par justement ces peuples-là lors de leur phase de semi-sédentarisation avant peut-être leur départ plus à l'est?
Alors Arkhaïm, ça se trouve dans l'Oural, dans la région d'Orenbourg, en Russie. C'est un habitat proto-urbain circulaire d'une certaine importance qui n'est pas unique en son genre, puisqu'on en connaît une dizaine en fait, dans la même région. Il y a une espèce de grand carré territorial où sont concentrés ces habitats. Pour les archéologues, il n'y a pas de mystère particulier. Ça se rattache à une culture qu'on appelle la culture de Sintashta et qui se situe dans la lignée des cultures préhistoriques que l'on attribue aux indo-européens, évoluant vers les cultures de l'âge du bronze qu'on attribue spécifiquement aux indo-iraniens. Donc très probablement, ce sont des ancêtres de populations de langue iranienne ou indo-iranienne qui ont résidé là. Ce qui a inspiré en Russie notamment divers délires sur la capitale d'un empire arien, une chose de ce genre.
Oui, ça, c'est bon. Ça rejoint un peu tous les publicistes qui vont broder.
Le mélange du nationalisme, de l'ésotérisme et du tourisme produit des effets quelque peu nocifs en la matière. Mais Arkhaïm est une espèce d'illustration justement de cette phase de sédentarité et même de proto-urbanisation qu'ont traversé les populations qui, quelques siècles plus tard, allaient devenir les scythes et d'autres nomades.
Donc c'est intéressant de voir que, de certaine manière, et là je crois que je ferai plaisir à mon ami essayiste et géopoliticien Robert Stokers, qui aime beaucoup vos ouvrages, bon, de certaine manière, l'eurasisme, des manières qu'on pourrait aussi nommer l'eurosibérie, enfin, je préfère d'ailleurs le deuxième terme, pour des raisons qui ramènent à l'utilisation idéologique de ces termes, était une terra europeana, quelque part, d'une certaine manière, en tout cas une bonne partie de la proto-histoire, enfin, de l'Antiquité la plus lointaine, enfin, pas uniquement, mais je pense qu'il y avait déjà des peuples, des ensembles mongoloïdes ou sibériens. Dans le coin, mais il y avait une extension de l'ère indo-européenne, très loin à l'intérieur de la Haute Asie.
Non, mais très clairement, le sud de la Sibérie, l'Asie centrale, l'ouest de la Mongolie étaient peuplés d'Europoïdes de langue indo-européenne, principalement de langue iranienne et aussi ce qu'on appelle les langues tocariennes, qui sont un autre rameau de la famille indo-européenne. Il reste d'ailleurs des populations de langue indo-européenne dans ces régions, comme les Tadjiks.
Oui. Oui, d'ailleurs, justement, ça nous permet de venir un petit peu à essayer d'évoquer la grande diversité de ces peuples et de leurs rameaux ethniques, tout en précisant, et ce que montrent aussi vos ouvrages, que cette civilisation des steppes qu'avait évoqué René Grousset, donc avec ses points communs, ses caractéristiques communes, engendrées justement par un mode de vie, par un milieu donc commun, doit son origine d'abord, bien sûr, aux peuples indo-européens qui ont après déteint, d'une certaine manière, je crois, sur les peuples des autres ensembles ethniques, à savoir altaïques et ouraliens.
Il y a une période fondatrice qui est très importante, qui va approximativement des 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, qui est la période scythe. Période scythe, les principaux peuples qu'on voit agir dans les steppes à l'époque sont les scythes proprement dits en Ukraine et au nord du Caucase, et en Asie centrale, ce qu'on appelle les Sas, qui sont en fait leurs cousins et qui sont très proches de ces scythes d'Europe. Pendant toute cette période, la plus grande partie des steppes eurasiatiques est en effet dominée par ces populations de langue indo-européenne. Et c'est à partir des 3e, 2e siècles avant Jésus-Christ qu'on va assister au début d'un grand reflux, avec au contraire l'arrivée par l'Est d'une vague de populations nomades de type partiellement ou totalement mongoloïde, et parlant des langues qui sont souvent des langues altaïques, c'est-à-dire de la famille turque-mongole tungouze.
D'accord. Voilà. Surtout avec le phénomène qui va se produire, c'est-à-dire l'assimilation souvent, la turquisation de tribus indo-européennes entières, ce dont témoigne l'anthropologie. Lorsqu'on voit des historiens qui, par exemple, décrivent, il a voulu signaler, mais je l'avais aussi lu dans les ouvrages d'un de vos confrères, Jean-Paul Roux, qui est un passionné, lui, de l'ère turque. Je me rappelle dans son histoire des Turcs, chez Fayard, il décrivait déjà les Kirghizes de l'Antiquité et du Moyen-Âge comme ayant un physique de type nordique, donc qui tranche un petit peu parce que on sait de l'apparence physique des premiers Turcs de certaine manière. Donc on prouvait qu'il y avait une sorte d'assimilation de tribus indo-européennes qui ensuite adoptaient en quelque sorte les schémas culturels et linguistiques de leurs vainqueurs.
c'est toute l'histoire des peuples turcs. Si vous regardez les Mongols et les Turcs, qui parlent tous deux des langues de la famille altaïque, les Mongols ont un type purement mongoloïde, on l'a nommé d'après eux. Les populations de langue turque présentent une gamme de types physiques allant du pur mongoloïde au pur européoïde. Et en effet, en regardant à la fois les textes et les données archéologiques, on réalise que ces peuples de langue turque, au fur et à mesure de leur avancée vers l'ouest, à partir de l'actuelle Mongolie, ont assimilé un nombre considérable de populations antérieures, et notamment ces populations nomades de type européoïde et de langue iranienne. Il y en a d'ailleurs un signe tout à fait étonnant au début même de l'histoire turque. Lors de la fondation du premier empire turc dans l'Altaï, donc au milieu du 6e siècle de notre ère, la dynastie qui crée cet organisme politique dont se réclameront ensuite tous les peuples turcs jusqu'à nos jours, symboliquement, est la dynastie des Achina. Et il se trouve que ce nom d'Achina est un mot sas, un mot scythe oriental qui signifie bleu foncé. Et nous savons que ces Turcs se qualifiaient eux-mêmes de Kökturk dans leur langue, c'est-à-dire de Turcs bleus. Donc il est vraisemblable qu'une dynastie qui avait au moins des attaches scythes assez fortes a été à l'origine de cette première structure politique turque.
Voilà, sans parler aussi des influences sur la mythologie, sur les croyances turques. Première croyance turque, en dehors du dieu Sehel Tengri, il y a le mythe du loup.
Le mythe du loup, alors le mythe qui fait des Turcs les descendants d'un survivant, d'un peuple exterminé, accouplé à une louve, est en effet emprunté presque en totalité à un mythe d'origine qu'avait développé un peuple nommé, que les Chinois appellent les Wusun, un peuple d'Asie centrale qui très vraisemblablement était lui aussi de langue iranienne.
Ah ben, qui décrivait en tout cas, je me souviens du Que sais-je de Louis Armand, sous la Haute Asie, où ils étaient décrits comme étant roux. Avec des yeux clairs, c'est vos fameux Wusun, donc bon.
Alors ça, c'est la présentation positive des choses. Les Chinois le formulaient autrement en disant que ces Wusun aux poils roux et aux yeux verts ressemblaient à des macaques.
Oui, je sais, je me souviens aussi de ça.
C'est ce que ça leur évoquait.
On est toujours souvent dans les clichés, les préjugés de telle ou telle grande culture. Alors, si vous permettez, Yaroslav, pourriez-nous faire donc un panorama général des grands peuples de cet ensemble eurasiatique, de cet ensemble steppique, enfin très rapidement, en tout cas en voulant mettre l'accent surtout sur, bien sûr, les éléments indo-européens qui nous intéressent au plus haut chef.
Je crois qu'il faut voir ça par grande vague et pas nécessairement par peuple. Enfin,
oui, ou par grande vague, oui.
En signalant à chaque fois les têtes d'affiche de ces vagues. Donc on a une première période qui est une période archaïque extrêmement mal connue, qui va du 9e au 7e siècle avant Jésus-Christ, qui est le moment où apparaissent les nomades dans les steppes. Ils apparaissent très vite, partout, dans l'ensemble des steppes, de l'Ukraine à la Mongolie. Et la seule population dont le nom émerge dans les sources est celle des Cimériens. Cimériens qui occupaient donc les steppes ukrainiennes à cette époque, avant les Scythes, et dont nous ne savons pas grand-chose. On a quelques vestiges archéologiques qui semblent nous montrer qu'il s'agirait d'une population proto-scythe.
Et popularisée sur le plan romanesque par Robert Howard à travers son personnage de Conan. Là je parle.
Voilà, alors on ne peut manquer de citer
amateurs de fantaisie héroïque.
Conan le barbare, on en pense ce qu'on veut sur le plan romanesque. Sur le plan historique et archéologique, il n'est pas recommandé de
bien entendu, l'agiborien n'est pas attesté, voilà. En tout cas.
Ensuite, nous avons donc cette période site essentiel du 7e au 3e siècle avant Jésus-Christ, qui est vraiment la période de formation de la civilisation des steppes, de ses schémas politiques, de son art, de sa mythologie, de ses rites funéraires, de ses moyens d'habitation et de déplacement, tout ce que l'on retrouvera jusqu'à nos jours, puisque c'est une civilisation qui est encore vivante, bien que sous des formes quelque peu paupérisées aujourd'hui. Et ensuite, donc, à partir des 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, commence la poussée vers l'ouest des populations mongoloïdes.
Les Sarmates, entre-temps
Alors, justement, pendant cette période de poussée des mongoloïdes, les steppes d'Europe restent occupées par des populations de langue indo-européenne, de langue iranienne, qui sont la grande famille des Sarmates, donc avec une série de tribus différentes, les Sarmates n'ayant jamais formé véritablement une unité, et dont la dernière manifestation est le peuple des Alains, connu en France notamment, bien sûr, à travers le prénom Alain qui remonte
à l'implantation d'unités sur son haleine, dont témoigne la toponymie, comme vous l'avez souvent signalé dans vos ouvrages.
Mais au dernier siècle avant Jésus-Christ, au premier siècle après Jésus-Christ, on a donc cette vague qui arrive d'Asie et qui est caractérisée par un ensemble de populations que l'on groupe sous l'étiquette de Huns, sous le nom très général de Huns. Ce sont les Xiongnu de Mongolie, dont on n'est pas sûr qu'ils soient les ancêtres des Huns européens. Et puis ce sont nos Huns, si j'ose dire, ceux d'Attila, et un certain nombre de populations qui leur sont apparentées. Plus ou moins lointainement en Asie centrale, comme les Kidarites, les Heftalites, etc., qui ont laissé des souvenirs beaucoup moins marquants, en tout cas en Europe. Mmh. Et au lendemain de cette période qu'on pourrait qualifier de unique, avec un H, à partir du VIe siècle, ce sont les populations turques qui commencent à s'étendre, donc en assimilant les vestiges des vagues antérieures. Et ces populations turques vont rester dominantes jusqu'à l'entrée en scène des Mongols gengiscanides, donc à la fin du XIIe siècle et surtout dans la première moitié du XIIIe siècle. C'est le dernier grand épisode finalement de ces empires des steppes, puisque l'empire mongol à son apogée s'étend du Danube à la Chine. C'est le plus grand empire de l'histoire et c'est l'un des apogées de l'histoire nomade, même si, il faut le dire, ce n'est pas l'un des apogées de la civilisation nomade. Puisque les Mongols, arrivés les derniers, étaient une population extrêmement fruste, qui s'est quelque peu civilisée et là aussi assimilée au fil de ces conquêtes.
Voilà, précisons d'ailleurs que vous avez fait paraître en 2013 un ouvrage consacré à la Horde d'Or, non aussi une question dont on discute beaucoup. Notamment, et souvent aussi qui est l'objet de récupération politique ou qui nourrit des débats historiographiques identitaires. Donc vous avez consacré un ouvrage à la Horde d'Or, conquête mongole et joug tatar en Europe, chez Errance en 2013. Je précise également, donc vous avez évoqué Attila, vous avez évoqué surtout les Huns, que vous avez contribué à démystifier, de certaine manière, et à démythifier, dirais-je plutôt, la figure d'Attila à travers plusieurs ouvrages, dont le plus marquant est intitulé « Le dossier Attila », que vous avez coécrit avec Cataline Escher, donc qui est publié chez Actes Sud Errance, je crois qu'il a été publié en 2007. Pourrions-nous revenir un petit peu plus en détail sur les sites Sarmat, Alain, et surtout sur le mode de vie? En fin de compte, vous avez dit que c'est eux qui ont précisément développé les grands schèmes centrales, en quelque sorte, donc de la civilisation nomade, la civilisation stépique. Ce serait intéressant, je crois, pour nos auditeurs de développer un petit peu sur ces différents points, sur justement ces aspects. Qu'est-ce qu'en fait de compte, quel est le mode de vie de ces peuples-là qui nous fascinent quelque part, par leur éthique guerrière, par leur artisanat, etc. Alors avant cela, si vous permettez, Yaroslav, je vous propose une petite pause musicale, comme il est souvent coutume dans cette émission. Alors j'ai trouvé un morceau extrait de la bande originale du film Ourga de Nikita Mikhalkov et signé par Edouard Artemiev. La lune. Bien, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, du Libre Journal des lycéens, dirigé aujourd'hui par Pascal Lassalle. J'ai le plaisir de recevoir Yaroslav Lebedinsky, donc historien, donc, qui enseigne l'histoire de l'Ukraine à l'INALCO et qui est surtout un des plus meilleurs et plus grands spécialistes francophones des cultures guerrières et cavalières de la steppe. Donc, cher Yaroslav, toujours à l'écoute de Radio Courtoisie, je vous prie donc d'essayer un peu de développer, donc à partir de l'exemple scythique, quelles sont un petit peu les grandes caractéristiques de ces civilisations au niveau de leur mode de vie, de leur tradition guerrière, de leur artisanat, de leur religion, et puis éventuellement après développer sur les autres rameaux indo-européens de cette civilisation steppique. Je pense notamment aux Sarmates et aux Alains.
Et d'autant plus volontiers que je suis conscient de devoir justifier ce terme de civilisation qui, pour une oreille française, est lié quand même à l'idée de la civitas, de la ville. Donc comment peut-on avoir une civilisation sans ville? Comment peut-on avoir une organisation politique sans police? Eh bien, on peut. Si on prend l'exemple des sites et des peuples qui leur sont apparentés, il faut bien comprendre que ces cultures reposent, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un mode particulier d'exploitation du milieu steppique. Donc ce sont des économies d'élevage. Élevage de chevaux, élevage de moutons, et puis quelques bovins et quelques autres animaux. Et un élevage qu'on pourrait qualifier de super extensif, qui est conduit sur de très grandes surfaces, de très grandes aires, grâce à la maîtrise de l'équitation. Cette civilisation des steppes est une civilisation du cheval. Le cheval y est à la fois le moyen de déplacement privilégié de l'éleveur, il est le moyen de combat du guerrier, comme on va le voir plus loin, il est l'objet d'une vénération presque religieuse, c'est un compagnon avec lequel on part souvent dans l'au-delà, on trouve les ossements de chevaux dans les tombes, et puis c'est aussi accessoirement un plat apprécié ou une source indirecte de nourriture à travers le fromage, le yaourt, etc.
Donc, il y a vraiment une relation particulière.
Oui, le cheval, alors le chien un peu moins, le chien est aussi important, mais le cheval est vraiment un personnage à part entière de ces civilisations des steppes. Donc une économie qui repose sur l'élevage et bien entendu sur l'utilisation de tous les produits dérivés de l'élevage. À peu près tout ce que fabrique le nomade est produit à base de cuir, de cornes, d'os, etc. Et cette économie fait également, c'est important dans l'histoire, une large place au commerce et aux relations avec les cultures sédentaires voisines. Alors on a dit que les économies nomades n'étaient pas autosuffisantes parce qu'elles avaient besoin d'un certain nombre de produits alimentaires d'appoint, elles avaient besoin de différents produits manufacturés. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. En tout cas, dans l'histoire, il est clair que toutes les grandes cultures nomades, dont celles des Scythes et de leurs proches parents, ont été des cultures d'échange et des cultures de commerce. Le nomade essayant souvent de contrôler les routes commerciales et éventuellement de racketter les commerçants.
D'ailleurs,
pour en
oui,
profiter.
Moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, enfin, moi, je me suis toujours intéressé un petit peu aux questions relatives à l'univers militaire et guerrier. Et je me souviens, il y a une quinzaine d'années, lorsque j'achetais dans une collection que vous connaissez très certainement, Yaroslav, la collection Men at Arms, audition Osprey, donc il y a des fascicules qui évoquent...
De grands classiques.
Des grands classiques, dont je me souviens de ce fascicule sur les Scythes. Et j'étais marqué par les magnifiques planches d'Angus MacBride, où on voyait des cavaliers Scythes avec des casques grecs, corinthiens, en bronze, hein, avec des cnémides grecs aussi, donc des jambières. En bronze, donc ce qui montrait qu'il y avait un échange, je crois que c'était au niveau de la mer Noire, Olbia, notamment, la cité d'Olbia.
Oui, alors comme toute.
Il y avait des échanges avec les Grecs.
Comme toute civilisation, celle des steppes est liée aux civilisations voisines, il y a toujours des échanges. Et il faut bien voir qu'autant depuis l'Occident que depuis la Chine, on voit le nomade comme extérieur au monde connu, habitant une espèce de désert, etc. Autant dans la réalité, les nomades occupaient une position relativement centrale entre l'Occident d'un côté, la Chine de l'autre, et au Sud, les cultures orientales. Donc ceci pour l'aspect de l'économie et du mode de vie. Il y a un autre aspect très important dans ces civilisations des steppes, et qui est d'ailleurs lié aussi au cheval, c'est bien sûr l'aspect guerrier. Dans la mesure où ces peuples n'ont pas de territoire bien défini, quoi qu'il faille être un peu plus prudent là-dessus, j'y reviendrai, qu'ils n'ont pas la plupart du temps de fortifications et de villes, bien qu'il y ait des exceptions aussi, ils sont en quelque sorte perpétuellement sur le qui-vive, perpétuellement sur la défensive et perpétuellement aussi à l'affût d'occasions de pillages, de raids chez les populations voisines. Et dès l'apparition sur l'arène historique de ces populations nomades, donc au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, les nomades sont des guerriers et sont spécifiquement des cavaliers dont l'arme de prédilection est l'arc. Et les Scythes en particulier sont décrits par Hérodote sous deux traits complémentaires. Ce sont, dit-il, des porte-maisons, c'est-à-dire des gens qui ont un habitat mobile, et des archers montés. Et il explique par ces deux traits le fait que personne n'a jamais pu vaincre les Scythes, puisqu'il était impossible tout simplement de les rattraper, qu'on ne pouvait pas leur infliger de dégâts à des villes ou à des villages inexistants. Et cet art de la guerre sera perfectionné par les successeurs des Scythes, notamment les Sarmates dans les steppes européennes, et puis différents peuples.
Quelques mots, si je peux me permettre, sur le fameux arc Scythe, un véritable modèle de technologie, d'une certaine manière.
Alors l'arc
Scythe... Pour peu qu'on puisse appliquer ce terme.
L'arc-site est très différent des jouets que nous avons tous fabriqués avec un bâton et une ficelle. C'est vraiment un objet de haute technologie qui fonctionne sur le principe qui est celui aujourd'hui des poutres précontraintes. C'est la collaboration des matériaux et la torsion inverse, c'est-à-dire que cet arc est fait d'une âme de bois qui est plaquée d'un côté de tendons résistant à l'extension, et de l'autre côté de lamelles de corne qui, elles, résistent à la compression. Donc il est tripartite. Et au repos, c'est-à-dire que lorsqu'il n'a pas sa corde, cet arc est plié à l'envers. C'est-à-dire que l'archer, pour placer la corde, doit, à l'aide d'un tour de jambe qui est d'ailleurs représenté sur des objets d'Arcite, recourber l'arc à l'envers et donc y emmagasiner déjà une force considérable. Cet arc était petit chez les Scythes, il a été plus grand chez les peuples successeurs, et c'est une arme surpuissante dont la portée maximale se situe autour de 400 voire 500 mètres.
C'est considérable.
Qui est colossal, même pour un arc actuel. La portée pratique est bien sûr plus réduite, et la portée précise ne dépasse pas quelques dizaines de mètres.
Avec une vitesse aussi de la flèche, bon, assez
voilà.
Élevée.
Et de toute façon, on sait qu'une flèche ne tue pas sur le coup, elle inflige des blessures qui ensuite peuvent être mortelles. Mais cet arc était en quelque sorte l'arme absolue des Scythes, et très convoité d'ailleurs par les peuples voisins.
Est-ce qu'il y avait aussi une métallurgie Scythe, bon, en dehors bien sûr des bijoux, de l'orfèvrerie, on voit surtout, on est frappé par ces fourreaux très particuliers des épées Scythes, qui semblent métalliques, d'une manière.
Alors ce problème de l'artisanat Scythe et puis en général de l'artisanat nomade est un sujet de controverse, puisqu'il y a toute une école d'historiens suivant laquelle les nomades empruntaient leur production métallurgique aux sédentaires voisins, plus ou moins soumis aux nomades. En réalité, les découvertes archéologiques et aussi certaines reconstitutions qui sont faites aujourd'hui sur la base de l'ethnographie des peuples nomades actuels montrent qu'il est parfaitement possible dans les conditions d'un nomadisme, dans les steppes, de pratiquer une métallurgie assez poussée. Et quand on analyse ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce aux études métallographiques, quand on analyse par exemple les lames d'épées Scythes ou même de simples couteaux ou de simples haches utilitaires, on constate que ce ne sont pas d'informes morceaux de métal, mais que ce sont là aussi des structures assez complexes qui annoncent l'acier damas oriental des époques successives, des aciers feuilletés, des tranchants rapportés, etc. Donc une métallurgie assez développée. Et ça pose la question de savoir comment et où elle se pratiquait. Et la réponse à cette question est un autre point important de l'histoire des Scythes et des nomades, qui est qu'à un certain degré de puissance et de développement, ces cultures nomades ont tendance non pas à se sédentariser en bloc, mais à créer des foyers de sédentarité. C'est-à-dire à installer en réalité des lieux fixes qui sont à la fois des centres de commandement politique et des centres d'artisanat, où l'on concentre ceux qui ont le savoir-faire et ceux qui ont besoin d'un outillage particulier. Et en Ukraine notamment, on en a découvert de très importants, qui sont là aussi de véritables proto-villes, utilisées par des Scythes qui étaient des nomades, puisqu'on n'y trouve pas par exemple de maisons, mais on y découvre des installations artisanales et on y découvre surtout de puissantes fortifications qui évoquent donc des sièges de pouvoir politique.
Justement, en parlant de cela, cher Yaroslav, je citais tout à l'heure la ville d'Olbia, il y avait des villes scythes, notamment en Crimée, en Chersonèse, non, si je m'abuse, autour de la mer Noire.
Alors ce ne sont pas à proprement parler des villes scythes, ce sont en fait des villes grecques.
Oui.
L'époque scythe est caractérisée sur la côte ukrainienne, notamment en Crimée, par une forte colonisation grecque. Mm-hmm. Colonisation marchande et puis politique avec la création de véritables villes qui sont des cités-états sur le modèle grec. Et très clairement, ces cités-états vivent en symbiose avec l'arrière-pays scythe, sous la protection plus ou moins des rois scythes, ou en tout cas avec
leur assentiment.
Leur assentiment, ouais. Tout à fait. Et elles ont des échanges à la fois commerciaux, artisanaux et culturels très intenses avec les scythes. C'est ce qui a provoqué la naissance de cet art de symbiose qu'on appelle gréco-scythe et qui s'est développé à partir de ces foyers du sud de l'Ukraine.
D'accord. Alors, nous évoquons tout à l'heure brièvement donc la deuxième grande vague donc iranienne, indo-européenne iranienne, qui va succéder en quelque sorte à l'ensemble scythique, l'ensemble sarmate, ou soromate ou sarmate. Pourriez-vous nous parler un petit peu des différences qu'il peut y avoir entre scythe et sarmate, qu'est-ce que les sarmates, à la différence des scythes, ont pu apporter justement dans divers domaines, donc relatif à leur mode de vie, à leur tradition guerrière, donc à l'ensemble, on va dire, indo-européen en général.
Alors, il s'agit de proches cousins. Le noyau des soromates puis sarmates, c'est la région qui se trouve entre le Don et la Volga, en Russie méridionale, d'où les sarmates, à partir des 4e, 3e siècles avant Jésus-Christ, entament une grande expansion vers l'ouest qui les conduit à remplacer les scythes en Ukraine, puis à déborder jusque dans la plaine hongroise.
Donc, il y a quand même des heurts entre les deux.
Mais archéologiquement, c'est très mal documenté. On a une source romaine qui nous dit que les sarmates ont exterminé les scythes. On n'a pas vraiment de traces de cela. Et on a l'impression que les scythes ont presque disparu avant l'arrivée des sarmates. En tout cas, leur territoire s'était rétracté, peut-être pour des raisons de crise économique ou écologique, les deux choses étant d'ailleurs liées. Quoi qu'il en soit, les sarmates ont eu une longue histoire, puisqu'elles... si l'on tient compte des soromates, elle commence en pleine période scythe, au 6e siècle avant Jésus-Christ, et qu'elle ne s'achève qu'au 6e siècle de notre ère, avec les dernières mentions dans les sources historiques à la fin des grandes invasions. Ces sarmates sont également de type europoïde, quoique avec un visage plus large que celui des scythes. Enfin, c'est une souche apparemment un peu différente. Ils parlent une langue très voisine. Dans ce qui reste de ces langues, il est assez difficile de distinguer ce qui est scythe et ce qui est sarmate. Et au niveau de leur mode de vie et de leurs mœurs, il y a deux traits qui ont frappé les observateurs antiques et qui sont tous deux abondamment confirmés par l'archéologie. Le premier, c'est la place des femmes. Mmh. C'est une culture fondamentalement féministe. Alors ça, c'est un trait sympathique pour l'occidental actuel. Les femmes ont une place...
Donc, féministe au bon sens du terme.
Au bon sens du terme, bien entendu. Là aussi, certaines féministes radicales américaines en ont tiré des conclusions que nous ne pouvons pas partager. plus sérieusement, la femme a vraiment une place très importante dans la société sarmate. Elle est associée au gouvernement de ces sociétés et apparemment, elle est chargée de toute une partie du domaine religieux. Mmh. Probablement d'une espèce de culte du feu et du soleil. En tout cas, les tombes sarmates où l'on trouve des attributs religieux sont des tombes féminine.
Alors, qu'en est-il aussi de ce fameux mythe des Amazones, en relation avec les sarmates, très souvent.
Le mythe des Amazones, alors, est d'origine indéterminée, puisqu'il est... C'est un mythe grec très ancien qu'on trouve déjà dans l'Iliade, mais ce qui est parfaitement clair, c'est que ce mythe a été à un moment donné plaqué sur la réalité qu'ont découverte les Grecs quand ils ont justement colonisé les rives de la mer Noire, c'est-à-dire l'existence de ces femmes qui non seulement avaient un statut social élevé, mais qui pouvaient porter les armes et combattre. Ce qui, pour un cerveau grec, était véritablement le monde à l'envers.
C'est clair. On est loin du gynécée.
Voilà. Hérodote nous dit que les femmes scythes sont des femmes au foyer, qui se consacrent aux affaires de leur ménage, etc. Alors que les femmes des soromates sont au contraire des guerrières. L'archéologie nous dit le contraire. Les femmes scythes participaient également aux activités guerrières, en tout cas pouvaient porter les armes. Et globalement, s'agissant de la période scythe et du début de la période sarmate, disons jusqu'au tournant de notre ère, entre 20 et 30% des tombes féminines contiennent des armes. qui ne sont pas du tout des jouets, et qui évoquent une capacité guerrière réelle et probablement une participation au moins limitée aux opérations militaires défensives.
D'ailleurs, dans vos ouvrages, vous précisez que cette tradition s'est perpétuée chez d'autres rameaux ethniques, notamment chez les Turcs. Il y a longtemps une tradition de liberté de la femme turque, en tout cas bon, dans les premiers stades de résistance.
Exactement.
Avant l'islamisation, surtout. Bon,
en fait, il en reste des traces aujourd'hui, parce que le statut de la femme est assez différent, même chez des peuples islamisés, mais de tradition nomades comme les Khazars et chez des peuples sédentaires de vieilles souches qui ont évidemment d'autres conceptions. Donc ça c'est une chose, et l'autre trait frappant des Sarmates qui est signalé par les sources antiques, c'est le développement chez eux, en complément de la cavalerie traditionnelle d'archers montés, qui était une cavalerie légère, d'une cavalerie lourde, une cavalerie cuirassée de lanciers.
Les fameux cataphractaires.
Les cataphractaires, oui. Qui sont une force qui agit donc au moment décisif de la bataille. Ce sont de petites unités formées par les aristocrates qui ont les moyens de s'acheter un équipement extrêmement coûteux et qui donc enfoncent le front ennemi une fois qu'il a été quelque peu attendri par les vagues d'archers montés.
Il était préparé en quelque sorte.
Voilà.
Quelques mots sur cet équipement, Jaroslav.
Alors, il est extrêmement spectaculaire. Il est décrit par les auteurs romains, et puis on en a trouvé des vestiges archéologiques. Donc le cavalier porte une cuirasse qui est faite d'écailles de métal ou de cornes cousues sur une cotte de cuir. Donc c'est quelque chose qui est très facile à fabriquer pour des nomades, puisque ce sont des éléments interchangeables, remplaçables, etc. Il porte la plupart du temps un casque.
Casque conique, je crois.
Voilà, un casque de forme conique qui peut être un produit d'importation, mais qui, semble-t-il, a souvent été fabriqué par les nomades eux-mêmes. Il monte un cheval qui, plus rarement, mais on en a des témoignages, peut être cuirassé lui aussi, avec un chanfrein de protection métallique et là aussi une protection d'écailles sur les flancs. Et son arme de prédilection, c'est une lance géante qui peut atteindre 4,50 m de longueur et qui est tenue à deux mains.
À deux mains, il n'y a pas de bouclier.
Il n'y a pas de bouclier. Et je vous invite à réfléchir à l'exploit que représente cette capacité à frapper à deux mains à la lance,
sans tenir
les rênes,
oui.
Sans étrier. Qui n'existeront pas avant, en Europe avant le 6e siècle de notre ère, donc bien plus tard, et sans bouclier pour se protéger des coups ennemis. Il y a d'ailleurs des tentatives de reconstitution de groupes de cataphractaires aujourd'hui, Marcus Jonkelmann en Allemagne et quelques autres, qui montrent toute la difficulté. En fait, il faut être né à cheval pour arriver à maîtriser cet art très particulier de la guerre. Et ce cataphractaire brandit une enseigne tout aussi spectaculaire, qui est en fait une manche à air avec une tête de dragon à l'intérieur de laquelle se trouve un dispositif produisant un sifflement pendant la charge. Donc on imagine...
Contribuer à entretenir un état psychologique particulier, voilà, chez l'ennemi qui va subir cette charge.
Absolument. Au moins à la première rencontre avec ce type de troupes, on imagine assez volontiers les victimes se débandant et s'enfuyant en pleine panique. Et ces cataphractaires seront adoptés ensuite par d'autres peuples, les peuples germaniques, l'armée romaine.
Qui va utiliser ses auxiliaires. Moi, je me souviens, mon premier contact avec les cataphractaires sarmates, c'est la fameuse colonne Trajan.
Bien sûr.
C'était une manière.
On en a une représentation, alors très, très stylisée.
Oui, on les voit, bon, on dirait qu'ils portent des pyjamas de caille.
Voilà, ouais, c'est un peu.
Fait des survêtements de caille, c'est une manière.
Mais c'est la représentation la plus connue de ces cavaliers. Et après la période des grandes invasions, ces cataphractaires deviennent un peu un lieu commun de toutes les armées.
Ils sont un peu, en quelque sorte, l'ancien du cavalier cuirassé.
Voilà, à travers la période carolingienne, c'est un peu le prototype du chevalier médiéval tel qu'on le connaît.
Il y avait aussi, bon, un peu avant, bon, les empires partent et sassanides aussi qui ont utilisé les clibanaris, je crois. C'était un peu une variation.
Pour les mêmes raisons, parce que si on regarde ce qu'est l'empire parthe, c'est en fait, il résulte de la conquête de la Perse et donc des états hellénistiques installés en Perse après les conquêtes d'Alexandre le Grand par un groupe de nomades de la mouvance scythique.
Qui vont se sédentariser.
Qui se sont sédentarisés, mais qui ont légué à cet empire parthe un grand nombre de leurs habitudes culturelles, notamment dans le domaine guerrier.
Alors, une question, oui, que j'aurais peut-être dû poser tout à l'heure, mais enfin, on est entre les Scythes et les Sarmates. Y a-t-il eu une tradition de ce que les historiens appellent les Männerbunden, de compagnonnage guerrier, qu'on retrouve notamment dans l'ère germanique, chez les Scythes et les Sarmates? Moi, je me souviens, on parlait de guerriers qu'on appelait les Maria, je ne sais pas, vous me corrigerez si je dis une bêtise. On parlait aussi de rites à travers l'ingestion de breuvages sacrés comme le Aoma ou le Soma. Pourriez-vous nous éclairer un petit peu là-dessus? Je crois que c'est une question qui peut fasciner, en tout cas qui me fascine aussi en particulier.
Pas beaucoup malheureusement, parce que si la question fascine, c'est qu'elle n'a pas de réponse scientifique actuelle. En effet, dans la tradition iranienne la plus ancienne, presque mythologique, on a ces groupes de jeunes guerriers qui s'appellent les Maria, et qui étaient les jeunes guerriers qu'on envoyait en expédition. C'était une sorte de guerre initiatique, et puis c'était aussi un moyen de se débarrasser des éléments les plus remuants de la société pour leur mettre un peu de plomb dans la tête. En ce qui concerne les sites et les sarmates, nous n'avons pas de description vraiment précise de ce genre d'institution, ni de groupe qu'on pourrait comparer au groupe de compagnons entourant le chef chez les Germains, etc. On peut supposer leur existence, ce serait dans la logique du système. On n'en a pas vraiment de preuves écrites ou archéologiques.
Au niveau des rites initiatiques et des coutumes, moi je me souviens justement de cette planche tirée du fascicule donc d'Osprey consacré au site, la dernière planche, où on voyait un jeune guerrier ramener une tête d'un officier macédonien devant son roi ou son chef qui lui offrait une coupe en or. Il y a aussi cette tradition qui est passée dans l'imagerie populaire de boire dans le crâne son ennemi. Quelques mots là-dessus, Chérios.
Voilà, alors ça, ce sont toujours des passages d'Hérodote très appréciés des lecteurs en quête de spectaculaire.
Un petit peu, quand même.
Le guerrier scythe, en effet, buvait le sang du premier ennemi qui l'avait tué, apportait la tête de cet ennemi au roi pour avoir droit à une coupe cérémonielle lors de la grande réunion annuelle des scythes. Il pouvait également conserver ce crâne pour boire dedans.
C'est un hommage en quelque sorte qui rendait.
C'est un hommage, c'est un hommage, c'est une façon de commémorer un combat particulièrement important. Et puis Hérodote nous dit que le scythe pouvait également écorcher l'ennemi vaincu et utiliser sa peau pour faire un tapis de sel.
Oui,
pour
ça, ça transparaît dans les planches aussi de cet ouvrage.
Il y en a quelques confirmations archéologiques, en particulier dans l'un de ces centres proto-urbains d'Ukraine dont je parlais tout à l'heure. On a retrouvé une espèce d'atelier de fabrication de coupes à base de crâne. Donc on utilisait une partie du crâne sur laquelle on montait un os comme anse pour s'en servir.
Charmant.
Et il ne faut pas mésestimer non plus le côté guerre psychologique de tout cela.
Oui, le scalp aussi, je crois qu'on est dans
le scalp, bien sûr, jusque chez les Alains à l'époque des grandes invasions. Et à l'égard de populations comme les Grecs qui attachaient une énorme importance à l'intégrité du corps et à la sépulture, on se souvient des funérailles de Patrocle dans l'Iliade, etc., la perspective de se faire découper par un scythe et de finir en pièces détachées pouvait être extrêmement dissuasive.
J'imagine, oui. Ça va. En tout cas, ça rentrait dans le cadre de ce que vous qualifiez tout à l'heure de guerre psychologique, de cette manière. Hein, qui était bien pensé. Alors, avant de développer, peut-être, comme je pense que vous l'avez souvent fait dans certains de vos ouvrages, sur... avant de revenir un petit peu sur l'influence sarmatique en Occident, on pourra parler très rapidement de la Bretagne, c'est-à-dire l'actuelle Angleterre, mais aussi surtout la Gaule. Quelques mots sur ce fameux art des steppes, quand même, qui suscite depuis très longtemps admiration. Moi, je me souviens j'ai un gros catalogue à la maison qui date d'une exposition faite à Moscou de 75, je crois même en France. Les musées ukrainiens et surtout russes, l'Ermitage, je crois, sont remplis de pièces de ce type. Il y a depuis quand même, au moins trois décennies, une immense fascination justement pour cet art des steppes. Que pouvez-vous nous en dire, cher Yanslav?
Le sujet est essentiel parce que ce que j'ai dit de la civilisation des steppes sous l'angle économique peut être interprété simplement comme une technique de survie. Après tout, qu'est-ce qu'il y a d'admirable là-dedans? Il y a toute une adaptation au milieu à travers cet habitat de chariots et de tentes qui est quand même remarquable, mais qu'on peut considérer avec quelques dédains quand on a construit le Parthénon ou le Colisée. Mais il y a un chapitre sur lequel les nomades ont retrouvé une célébrité de nos jours. C'est en effet l'art des steppes. Alors de quoi s'agit-il? C'est un art dont les thèmes d'inspiration sont des thèmes animaliers. Fondamentalement, le nomade vit dans un monde d'animaux, si l'on peut dire, où les images de ces animaux portent, représentent, symbolisent différentes idées, différents concepts. Alors fondamentalement, il y en a trois. Il y a le rapace, il y a le félin, peut-être un tigre, un lion, etc. Et il y a le cerf. Et ces animaux, on les retrouve dans différentes combinaisons, parfois sous forme d'animaux fantastiques qui combinent des éléments d'étroit, parfois sous forme d'affrontements entre animaux. Et ce qui est caractéristique de l'art des steppes, c'est une stylisation de ces animaux. On sait que tout art, finalement, est une stylisation, que ce soit l'art égyptien, l'art grec, etc. C'est une façon de représenter les choses. Ça n'est pas la représentation en elle-même. Et dans l'art des steppes, on a ces images immédiatement reconnaissables de cerfs aux pattes pliées, de rapaces désignés par leur bec et par leur œil, et de cerfs dont on souligne la ramure proliférée qui se transforment en savants entrelacs. Donc c'est quelque chose de vraiment typique et de typique surtout de l'époque scythe, donc des 7e, 3e siècles avant Jésus-Christ, mais qui ensuite a connu d'autres variantes, d'autres déclinaisons, et dont il y a encore des échos dans l'art mongol récent et même actuel. On trouve encore des objets d'art mongol qui comportent des éléments qu'on dirait sortis de l'art scythe. Et après le 3e siècle avant Jésus-Christ, cet art des steppes évolue vers une abstraction plus grande, c'est-à-dire que les motifs animaliers se couvrent progressivement d'incrustations colorées, des turquoises et puis plus tard des grenats, du vert rouge, etc. Et qu'à la fin, c'est-à-dire à l'époque des grandes invasions au 4e, 5e siècle de notre ère, les incrustations colorées finissent par éliminer les motifs animaliers et par devenir des espèces de mosaïques complètement abstraites. C'est une autre forme d'art des steppes qui est également très intéressante et qui a aussi laissé un héritage actuel important, puisque c'est l'origine de la fameuse joaillerie turkmène, qui est à base également de pierres incrustées.
Puis surtout, on est vraiment fasciné lorsqu'on voit notamment des objets usuels tirés de l'art scythe. On voit la représentation de scènes de la vie quotidienne, de ces fameux peignes notamment, et qui sont justement, c'est mon titre. Je crois que vous avez consacré un livre à ce que vous appelez les tangas. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Enfin, vous parlez de concernant justement ces.
Alors, il y a deux problèmes. Il y a concernant l'art des steppes, le sens que peuvent avoir les motifs animaliers. Et là, la réponse courte est que malheureusement, on n'est pas vraiment documenté là-dessus. On peut dire de façon générale qu'ils véhiculent des idées, ça c'est évident. Il y a plusieurs théories là-dessus, des théories sur le sens chamanique, sur le sens héraldique qu'auraient pu avoir ces motifs, sur le sens religieux. Il n'est pas sûr qu'il y ait une seule et même réponse pour l'ensemble des formes de l'art des steppes. Quant à ces tamgas dont vous parlez, c'est un peu différent, parce que ce sont des motifs purement abstraits, des motifs géométriques, basés sur la croix, le cercle, etc., et qui sont là, on en est sûr, des marques de nature héraldique, c'est-à-dire des emblèmes de familles, de clans, et puis finalement d'états nomades, développé particulièrement chez les Sarmates et par la suite chez les peuples turcs et chez un certain nombre de populations sédentaires voisines de la steppe. On peut citer les Slaves, on peut citer les Caucasiens du Nord qui ont développé des systèmes voisins de représentation géométrique. Pour l'anecdote, ces motifs sont encore assez vivants aujourd'hui dans les emblèmes nationaux et dans les emblèmes d'État. En Eurasie, le trident qu'on trouve sur les armoiries de l'Ukraine est en fait, le tamga de la dynastie Riorikide des 9e, 13e siècles. Et en Lituanie également, on trouve un emblème assez proche sur les symboles d'État.
Alors, pour revenir à ces sarmates, je voulais signaler à nos auditrices et auditeurs un roman que vous avez, dont vous avez proposé la traduction de l'anglais aux éditions Actes Sud, qui s'intitule L'Aigle Dragon, signé par une certaine Gillian Bradshaw. Quelques mots sur ce roman qui m'a vraiment fasciné à l'époque. Bon, l'art du roman historique est toujours périlleux. C'est pas évident de retranscrire à la fois une époque et puis surtout la manière dont on pensait à cette époque, on se représentait le monde. Qu'est-ce qui vous a amené à la traduction de ce roman qui évoque donc les aventures d'une unité auxiliaire sarmate dans la Bretagne romaine de la fin du IIe siècle, de l'époque de Marc Aurèle, si mes souvenirs sont bons?
Alors, J'adore les romans historiques, les bons, et puis les mauvais au second ou au troisième degré, c'est distrayant aussi. Et je suis tombé par hasard sur ce roman qui s'appelle L'île des fantômes, Island of Ghosts, dans la version anglaise, qui a été traduit sous le titre L'Aigle et le Dragon, parce que, bien entendu, je surveille d'assez près ce qui se dit des Sarmates, qui sont mes nomades préférés, dans ces romans historiques. Et là, dès les premières pages, j'ai été saisi par la qualité extraordinaire de la recherche qu'avait conduit cet auteur sur la culture des Sarmates et sur la reconstitution de leur pensée. Parce qu'en fait, tout le roman est basé sur ce qu'on appellerait aujourd'hui le choc des cultures, c'est-à-dire sur l'affrontement entre la vision du monde qu'ont les Romains, une vision du monde à laquelle nous sommes très, très habitués en Occident, puisque d'une certaine façon c'est encore la nôtre, et la vision du monde que pouvaient avoir donc ces nomades de langue iranienne au début de notre ère, puisque l'histoire se passe au milieu du IIe siècle, à l'époque où les Sarmates, vaincus par Rome, doivent fournir des troupes auxiliaires qui sont installées dans l'île de Bretagne, donc dans l'Angleterre actuelle, sur le mur d'Adrien. Et j'ai trouvé ce travail de reconstitution psychologique et intellectuelle absolument remarquable. J'ai souhaité traduire ce roman et je le recommande à tous les auditeurs à la fois anglophones et francophones qui s'intéressent à ces questions.
Moi également, de toute façon, c'est vrai que c'est frappant de voir la manière dont elle a pu faire ressentir les différences de vision du monde qu'il peut y avoir entre un officier sarmate et puis un fonctionnaire corrompu romain dans leur réaction, dans leur appréhension des choses, etc. Le contraste est véritablement assez radical, de certaine manière.
Voilà, on a l'officier romain disant au prince sarmate « Vous êtes des sauvages, vous scalpez vos ennemis, etc. » Et le sarmate lui répond « Oui, mais nous ne jetons pas des gens aux bêtes dans des amphithéâtres et nous n'exposons pas nos enfants surnuméraires. » Voilà. Donc c'est assez bien vu.
Tout à fait. Alors pour rester justement dans l'apport, on va dire, sarmate, en tout cas les influences sarmates en Occident, donc nous avons précisé tout à l'heure que l'armée romaine avait abondamment souvent utilisé les talents de ces cavaliers lourds dans des unités auxiliaires qui étaient un petit peu cantonnées dans toutes les parties de l'Empire, et en particulier dans notre belle et douce France, ceux dont témoignent notamment abondamment... plein d'autres choses, la toponymie.
Oui, la Gaule a reçu une double transfusion sarmate et alaine, celle des Alains, au 4e, 5e siècle. Alors, il y a eu d'abord ce que vous rappeliez, c'est-à-dire l'installation d'auxiliaires de l'armée romaine dans ce qu'on appelait des préfectures. Il y a au moins 6 préfectures sur le territoire gaulois, plutôt centre-ouest et centre-est de la France. Donc ces gens recevaient des terres à cultiver, ou plus probablement à faire cultiver, et fournissaient, pense-t-on, des unités militaires de défense territoriale à l'armée romaine. Donc ça fait déjà un certain nombre de gens. Au 5e siècle, au moment où la Gaule est envahie par les troupes alliées des Vandales, des Alains et des Suèves, une partie des Alains fait souche sur le territoire gaulois, s'implante dans la région de Valence et au nord de la Loire dans la région d'Orléans, et dans cette dernière région, donc à peu près dans la Beauce actuelle, y constitue dans les années 440-450 un royaume qui sera assez important pour être l'un des obstacles sur lesquels a buté Attila lors de sa campagne de 451.
J'en mémoire les noms de deux petites bourgades, Sermaize et Alainville, si je ne m'abuse.
Voilà, il y a des traces toponymiques de ces populations, puisqu'on imagine bien la population gallo-romaine désignant les points d'implantation de ces cavaliers sarmates par un nom comme Sarmatia, les points d'implantation des Alains par le nom Alania, et donc ces noms sont restés. Alors ces questions sont contestées, il y a des débats entre toponymistes sur le lien qui existe entre les Sermaize, Sermoise, Sermage et les Sarmates, et entre les Alaines, Alainville, Alaincourt et les Alains. Le plus probable est quand même qu'une partie de ces toponymes remonte bien au nom des Sarmates et des Alains. Et de toute façon, il est clair que ces implantations ont eu un caractère relativement important sur le plan numérique au 5e siècle.
D'accord. Oui, donc il y avait donc ces implantations, et d'ailleurs, je rappelle que vous avez consacré à cette question donc un ouvrage intitulé « Sur les traces des Alains et des Sarmates en Gaule », paru chez l'Harmattan en 2011.
De manière. Oui, et ouvrage dont j'ai le plaisir d'annoncer qu'il est déjà périmé en partie, puisque j'y faisais le recensement des traces archéologiques qu'on peut en France attribuer à ces Sarmates ou Alains. Il y a un certain nombre d'objets tout à fait caractéristiques, certains types d'armes et puis surtout des miroirs métalliques tels que les utilisaient les nomades avec des décors particuliers. Et il se trouve que récemment, une découverte supplémentaire de la plus haute importance a été faite en Alsace, à Obernai, avec une petite vingtaine de tombes de l'époque des grandes invasions, de tombes du 5e siècle, présentant des caractéristiques orientales, comme le disent les archéologues sans se compromettre, plus précisément des caractéristiques nomades et à peu près certainement des caractéristiques alaines, enfin qu'on peut lier à la présence des Alains qui est bien documentée dans cette région du limès rhénan. Et c'est très important parce qu'il ne s'agit pas de tombes isolés ou d'objets isolés comme on en a trouvé ailleurs, il s'agit du cimetière d'une communauté qui a existé là certainement un moment et dont on trouvera peut-être d'autres traces à l'avenir. Donc ça rejoint cette idée quand même d'une présence numériquement importante. Quand on songe aux traces archéologiques laissées en France par de grands peuples, de peuples nombreux comme les Burgondes ou les Visigoths, qui sont des traces misérables, on s'aperçoit quand même que les traces des Sarmates et des Alains sont loin d'être... négligeable, oui. Et évoque probablement la présence de plusieurs dizaines de milliers d'individus sur le territoire gaulois.
Alors je vous rappelle, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, du Libre Journal des lycéens, dirigé aujourd'hui par Pascal Assal, qui a le plaisir de recevoir Yaroslav Lebedinsky, qui est un historien, spécialiste des cultures guerrières de la steppe et du Caucase, qui est chargé de cours d'histoire de l'Ukraine à l'Institut National de Langue et Civilisation Orientale de Paris, et qui est surtout auteur d'une trentaine d'ouvrages sur tous ces sujets. Alors, nous parlions de la présence de l'influence sarmate en Occident, sur le territoire de ce qui fut l'ancienne Gaule. Vous avez également consacré un ouvrage tout à fait éclairant et intéressant à l'influence qu'ont eu cités sarmates sur l'ethnogénèse des Slaves, des populations slaves, et en particulier des populations slaves orientales, à travers notamment un autre de vos ouvrages, paru dans la collection que vous co-dirigez avec Irina Dmitrychine, la collection Présence ukrainienne, donc chez cet éditeur. L'ouvrage est intitulé Sites sarmates et slaves, l'influence des anciennes nomades iranophones chez les slaves. Alors ça nous ramène aussi un petit peu à cette question ukrainienne qui nous est chère. Quelle a été un petit peu la part? C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des reconstructions d'histoire nationale, d'une certaine manière. L'Ukraine notamment essaie de trouver son schéma historiographique en dehors de celui qui fut dominant et exclusif de l'Empire russe ou de l'époque soviétique. Et il y a un recours justement à ce passé nomade, d'une certaine manière, surtout le rôle qu'il a joué dans la constitution de l'ethnos ukrainien, pour parler de celui-là en particulier. Que pourriez-vous nous dire sur ce sujet, cher Yaroslav?
Alors, il faut comprendre que sur le plan de l'histoire, donc des sources historiques, les Slaves apparaissent très tardivement, en fait entre les 4e et 6e siècles de notre ère. Ils le vivent souvent mal et ils ont consacré beaucoup de travaux historiques, que ce soit en Russie, en Ukraine, en Pologne, en Croatie, etc., à se chercher des ancêtres prestigieux.
Et lointain surtout.
Et lointain. Et pendant de nombreux siècles, on a cru par exemple que les Slaves, ou en tout cas les aristocraties traditionnelles des peuples slaves, descendaient des Sarmates. C'est ce qu'on a appelé le sarmatisme.
En Pologne surtout.
Très fort en Pologne, en Ukraine également, et qui non seulement était parole d'évangile sur le plan scientifique, mais qui a inspiré aussi des modes militaires et même un programme politique, puisqu'à partir du moment où l'aristocratie polonaise descendait des Sarmates, elle avait en quelque sorte le droit d'occuper l'ensemble des territoires que les Sarmates avaient occupés un jour. On connaît ce genre de raisonnement. La science moderne a une vision différente de ce problème. Il est clair que les Slaves ne descendent pas en majorité des Sidou des Sarmates, mais il est clair que dans les étapes les plus anciennes de la constitution de l'ensemble linguistique et culturel slave, qu'on peut situer dans les derniers siècles de l'Antiquité, ce processus de constitution a été très influencé par des peuples nomades de langue iranienne, que ce soit les Scythes, les Sarmates ou plus tardivement les Alains. Il est probable que les ancêtres des Slaves se trouvaient dans la zone d'influence des Scythes tels que les décrit Hérodote. On a pensé qu'il pouvait s'agir de ces populations qu'Hérodote appelle les Scythes cultivateurs, les Scythes paysans,
laboureurs, ouais,
voilà,
laboureurs,
qui bien entendu ne sont pas de vrais Scythes, mais qui étaient des gens qui s'étaient en quelque sorte convertis à la culture Scythe. Et on a des traces permanente de relations étroites entre les cultures qu'on peut attribuer aux ancêtres des Slaves à différentes époques et les cultures nomades contemporaines de ces cultures proto-slaves. Qu'il s'agisse des Cimériens, qu'il s'agisse des Scythes, qu'il s'agisse des Sarmates, qu'il s'agisse des Alains, ces liens sont assez bien documentés. Et il faut y ajouter des traces linguistiques là aussi importantes, puisque toute une couche du vocabulaire des langues slaves est iranienne, est empruntée à des langues iraniennes, donc forcément à des langues iraniennes des steppes. Et le point le plus intéressant est que cette couche de vocabulaire, qu'on peut attribuer aux Scythes et probablement également aux Sarmates, est concentrée dans des domaines particuliers qui sont les domaines de la religion et de la souveraineté.
Justement, j'allais vous poser la question là-dessus.
Les termes qui signifient Dieu, Saint, Seigneur, etc., sont des termes de probable origine iranienne dans les langues slaves, encore dans les langues slaves actuelles. Ce qui nous suggère une situation dans laquelle les ancêtres des Slaves, finalement, ont vu le monde à travers des concepts Scythe et à travers un vocabulaire Scythe. C'est assez remarquable.
Alors si aujourd'hui on devait faire cet ensemble slave oriental, bien sûr, plus tard va accoucher des trois grandes branches de cette slavité orientale, à savoir les grands Russiens, donc les Ruthènes ukrainiens, les blancs Ruthènes et les Bélorussiens. Chez quelle branche, peut-être, cette influence serait-elle la plus perceptible aujourd'hui? On y est coutume de dire souvent que c'est dans la branche ukrainienne que c'est le cas. Est-ce plus ou moins le cas chez les autres, ou à quel degré?
Il y a une logique géographique qui est que le plus grand nombre d'ancêtres Scythes ou Sarmates, d'influences Scythes ou Sarmates, se rencontrent nécessairement chez les populations slaves orientales au contact de la steppe, c'est-à-dire chez les Ukrainiens et également chez les Russes du Sud, dans les régions du Don, de la Volga et du nord du Caucase. Les Biélorussiens doivent probablement beaucoup plus à leurs ancêtres baltes.
Voilà, ce sera baltes,
largement des baltes.
C'était très discuté d'ailleurs là-bas aussi.
Voilà. Alors, l'Ukraine, bien sûr, s'est développée ou redéveloppée un mythe national qui, cette fois, ne repose plus sur les Sarmates, mais sur les Scythes. Les Ukrainiens, disons volontiers, mais regardez les limites de la city d'Hérodote, comme elles coïncident bien avec celles de l'Ukraine
actuelle.
En tout
cas, l'histoire Scythe est intégrée dans l'historiographie de l'Ukraine. Quand vous prenez un manuel d'histoire manuel scolaire ukrainien, on voit que cette période est totalement intégrée, Scythe, Sarmates.
Absolument. Et tant qu'on le fait avec les précautions scientifiques nécessaires et sans en tirer de grotesques schémas de type patriotique ou ultra-patriotique plutôt, on peut tout à fait dire qu'en effet, les ancêtres les plus lointainement connus des Ukrainiens étaient ces gens qu'Hérodote nous situe dans la steppe boisée.
Oui, si on ne remonte pas à la situation tripolier, voilà.
Et que ce sont des gens qui, à un moment donné, en effet, ont eu une culture de type Scythe et ont assimilé cette couche de vocabulaire Scythe. Sauf qu'à l'époque, bien entendu, ces Ukrainiens n'étaient pas individualisés par rapport au reste des Slaves orientaux, ni sans doute même des autres Slaves, puisque cette couche de vocabulaire iranien se retrouve plus ou moins chez tous les Slaves.
Voilà, en tout cas de l'époque de la Rus de Kiev, ce que vous qualifiez de Ruthénie de Kiev, en prenant le terme latin, bon, au lieu du terme impropre et pas innocent politiquement de Russie de Kiev, qui est un anachronisme, derrière-pensée politique importante.
Le terme de Russie de Kiev relève de l'oxymore, mais c'est un autre débat.
C'est un débat, nous en avons déjà parlé, je pense, il me semble, dans l'émission de l'année dernière. Alors, si nous devions faire, cher Rossav, un peu un bilan de cet héritage nomade, que pourrions-nous dire que nous avons reçu et qu'est-ce qui doit encore peut-être nous inspirer dans cette formidable aventure qu'ont été ces populations, ces peuplades guerrières et cavalières? Qu'est-ce que nous devrions garder ou peut-être réactualiser, pour peu que ce soit encore possible, de cette facette de nous-mêmes, quelque sorte, de cette part de notre héritage le plus ancestral?
Je crois que l'inventaire n'est pas fait et qu'il est, c'est d'ailleurs une question très actuelle, de mesurer l'impact à la fois humain et culturel de ces vagues nomades sur les civilisations environnantes. Alors, je rappelle d'abord que cette civilisation des steppes existe encore, sous une forme bien sûr très, très rétrécie, qui a perdu ses aspects les plus flamboyants, mais elle existe encore de manière marginale en Mongolie et dans certains pays d'Asie centrale. Pour le reste, les nomades sédentarisés sont très nombreux et sont très nombreux jusqu'en Europe. Il faut penser aux Bulgares, il faut penser aux Hongrois et il faut penser à tous ces gens qui ont laissé des traces chez les Slaves, chez les Caucasiens du Nord. Il faut penser aux Tatars actuels de Russie qui sont là aussi loin d'être tous des mongoloïdes.
En particulier, ou en Crimée aussi.
En particulier les Tatars de Crimée dont bien sûr on parle beaucoup depuis l'année dernière. Donc il y a un héritage génétique qui est très important, très probablement, n'importe quel Français peut revendiquer quelques ancêtres sarmazoulins. C'est le simple jeu des statistiques. Et puis, il y a un héritage culturel diffus, et c'est là que l'inventaire reste à faire, puisqu'on pense, bien entendu, au domaine de la guerre. On pense, pour des périodes alors postérieures au site, à l'étrier, au harnachement, on pense au développement de la cavalerie, on en a parlé à propos des sarmates et de leur cavalerie cuirassée. Il y a des traces d'influence nomade dans des domaines beaucoup moins connus. Vous savez que l'un des grands sujets à la mode actuellement à ce propos, c'est la possibilité que des pans entiers de la légende arthurienne soient en fait d'origine sarmate. Oui. Alors c'est aussi un domaine qui a donné lieu à des débordements.
Oui, je me rappelle d'un film.
Film historique particulièrement grotesque, celui de Foucault,
en
2004. Mais le sujet existe parce qu'en effet, un certain nombre de thèmes et d'épisodes des plus anciens récits arthuriens semblent vraiment transplanté depuis la steppe, à commencer par cette vision que nous avons tous de l'épée plantée en terre et qui est en fait une marque divine de souveraineté.
On retrouve aussi moi je vous rappelle, lorsque vous lisez l'histoire d'Attila, plus ou moins fiable, je me souviens de celle de Maurice Bouger-Ajam, qui est très discutable à la lecture de votre ouvrage, on retrouve cette histoire de l'épée plantée que le bouvier trouve dans le champ et rapporte comme un signe divin. D'élection divine d'Attila, d'une certaine manière.
Exactement, et des siècles auparavant, on trouve chez Hérodote la description du culte du dieu de la guerre chez les Scythes, qui consiste à planter une épée au sommet d'un bûcher et à l'arroser du sang des prisonniers de guerre sacrifiés. Et on sait que chez les Sarmates et les Alains également, l'épée était une espèce d'icône du dieu de la guerre, qui d'ailleurs reste anonyme parce que sans doute son nom était protégé par un genre de tabou. Et probablement, cette image qui ne semble pas avoir de racines celtiques dans l'épopée arthurienne est l'un de ces schémas steppiques qui aurait pu être transmis à l'Occident et particulièrement à la Bretagne insulaire par ces cavaliers sarmates de l'armée romaine dont nous parlions tout à l'heure.
On aurait en fait amalgamé plusieurs mythèmes. Il y a le mythème de la pierre de Fake, des quatre objets talismaniques des fameux toits
des
Danann.
La pierre qui crie quand le roi légitime.
Il y a l'épée de Noada, mais le fait de planter l'épée dans la pierre serait peut-être cet apport, résulterait de cet apport sarmate.
Tout à fait. Et puis il y a des éléments encore beaucoup plus étonnants, mais qui demandent encore à être analysés. Comme par exemple le parallélisme absolu qui existe entre le récit de la mort d'Arthur, ce récit classique où on voit Arthur demander à un compagnon de jeter son épée Excalibur dans la mer.
Bourman a repris, bien sûr, cette magnifique scène dans son film manifeste, en quelque sorte, Excalibur.
Très, très spectaculaire. Et un récit absolument identique qui existe dans les récits caucasiens des Ossètes. On sait que les Ossètes du Caucase central sont les descendants des Alains, c'est la dernière partie non assimilée des Alains, qui en a conservé la langue et beaucoup de traits culturels. Et dans la mythologie ossète, dans les récits épiques ossètes, on trouve un récit absolument identique où le héros Batraz, mourant, demande à ses compagnons de jeter son arme dans la mer et réclame qu'un prodige lui soit rapporté pour lui prouver qu'elle a bel et bien été jetée. On peut pratiquement superposer les deux récits ligne à ligne.
C'est, je crois que c'est Georges Dumézil qui avait un peu étudié l'affaire avec Charadizé, je crois.
C'est Joël Griswold qui, qui avait lancé cela. Ouais. Et en effet, le grand Georges Dumézil qui l'avait théorisé. Ouais, et aujourd'hui, donc, c'est l'objet d'énormément de travaux, de qualité malheureusement très, très diverses. Mais disons que la question est posée et elle mérite des études ultérieures chez des gens qui seraient capables de maîtriser à la fois le volet steppique et le volet celtique.
D'accord, oui. Oui, donc ça demande bon, des interventions, des travaux croisés. Bon, ça va être l'objet de futurs colloques. En tout cas, c'est une démarche transdisciplinaire, telle qu'à l'image de la vôtre d'ailleurs, cher Slav. Bon, vous précisez bien que vous croisez souvent les apports de l'archéologie, de l'anthropologie, de l'histoire des religions et de l'histoire tout court. Et de l'étude aussi des armements. Vous avez consacré plusieurs livres aussi à l'étude des armes blanches anciennes.
Oui, on aura compris que ces peuples de la steppe étaient pour la plupart des peuples sans écriture. Mmh. Ils ont eu des contacts nombreux avec différents systèmes d'écriture. Pour la plupart, ils n'ont pas écrit. Les exceptions les plus notables sont les Turcs, avec leur écriture runique, et surtout les Mongols, qui ont développé toute une administration et qui ont même une chronique, la fameuse histoire secrète des Mongols, qui raconte la constitution de l'Empire mongol par Genghis Khan. Mais les Scythes, les Sarmates, les Alains et bien d'autres, les Pechenegs, les Polovts de langue turque, etc., n'ont pas laissé de traces écrites. Nous ne connaissons donc leur histoire que par les sources historiques des sédentaires, c'est-à-dire de leurs...
Qui les ont subis, souvent.
Qui les ont subis, oui, leurs ennemis, leurs victimes, et des gens qui, bien sûr, avaient des préjugés sur le nomadisme qu'on a évoqué au début de cette conversation. Et il est donc absolument nécessaire de croiser avec les sources historiques les données archéologiques, les données de l'anthropologie physique, les données de l'histoire de l'art et les données linguistiques. Et j'ajoute, sans citer personne, que je ne comprends pas qu'on puisse aujourd'hui écrire une histoire des Huns ou un livre sur Attila en se basant sur les seules sources écrites. Ça n'a strictement pas de sens.
En tout cas, vous avez montré, vous avez consacré au moins 3 ouvrages à Attila, si je ne m'abuse, notamment celui que j'ai cité tout à l'heure. Et effectivement, on voit que vous avez croisé énormément de disciplines et les apports qui...
Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au peuple de la steppe, je m'étais juré de ne jamais écrire sur Attila, sur Genghis Khan, sur les grands classiques, et au contraire, de me consacrer à mes Scythes et à mes Sarmates. Et bien entendu, de fil en aiguille, on s'aperçoit très vite qu'il est impossible de s'arrêter quelque part. C'est comme dans la steppe, il n'y a pas d'obstacle. Quand on a étudié un peuple, il faut étudier les autres. Quand on a étudié une période, il faut aller jusqu'à nos jours, si on veut vraiment comprendre les choses.
Alors, justement, cher Oscar, ça nous amène à vos prochains projets éditoriaux. Je crois que vous êtes sur le point, dans la semaine qui vient, de sortir un nouvel ouvrage qui s'intitule Les mystères de la steppe. Quelques mots sur cet ouvrage, c'est une petite collection, je crois, chez un petit éditeur de province.
Oui, chez L'Aime Edit, qui est en fait un éditeur en plein développement et en pleine ascension, qui travaille beaucoup notamment sur l'histoire militaire, mais qui a d'autres cordes à son arc, comme le roman historique. Et je lui ai donc proposé cet ouvrage sur les mystères de la steppe, qui est en fait une compilation, disons, de l'ensemble des dossiers problématiques ou des dossiers bizarres sur lesquels je suis tombé au fil de mes recherches. Donc il ne sera question ni de soucoupes volantes, ni d'Atlantide, mais on y trouvera des histoires de villes oubliées, de tombes
perdues, peut-être des vaisseaux spatiaux cachés sur le Kogan,
et de peuples mal identifiés, parce que cette grande steppe eurasiatique recèle encore bien des mystères.
En tout cas, bon, l'énoncé de votre bibliographie donne le tournis, donne le vertige. Donc, si je devais me permettre de faire des suggestions à nos auditrices et auditeurs, donc pour aborder votre œuvre et surtout les thématiques qui vous sont chères, celles de ces chers peuples nomades que nous venons d'évoquer au cours de cette trop courte émission, dont je citerai d'abord donc l'ouvrage que j'ai rappelé tout à l'heure, Les Nomades, donc chez Errance, peuple nomade de la steppe, des origines des régions mongoles. Et ensuite, on peut développer, je pense que les auteurs peuvent développer sur ceux qui ont été nos petits chouchous durant cette émission, à savoir les Scythes, donc ouvrage intitulé Les Scythes, qui a connu une nouvelle édition revue et augmentée, toujours chez Errance. Les Sarmates, sous-titré Amazone et l'ancien cuirassé, je suis fatigué, entre Oural et Danube, 7e siècle avant Jésus-Christ, 6e siècle après Jésus-Christ, 2e édition aussi, revue et corrigée, justement. Donc l'ouvrage que j'ai signalé, donc, qui s'intitule Scythes, Sarmates et Slaves, hein, chez L'Harmattan. Je le retrouve, il est là. Voilà, donc paru chez L'Harmattan en 2011, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, enfin peu importe. Et de toute façon, ensuite, et le roman donc, que nous avons, dont nous avons aussi parlé, l'ouvrage de Gillian Bradshaw, Bradshaw orthographié B-R-A-D-S-H-A-W. Gillian Bradshaw, L'Aigle et le Dragon, donc chez Actes Sud, vous avez écrit la postface d'ailleurs, hein, où vous revenez sur ce que vous avez précisé. Et puis si bien sûr on veut de déborder sur Attila,
l'incontournable, hein,
le fléau de Dieu, donc l'herbe ne repousse pas, hein, ça se me rappelle mes années de primaire.
Deux des mythes qu'il convenait de dénoncer.
Et pourtant, moi je continue, hein, d'une certaine manière. Allez. Donc, d'ailleurs, une superbe couverture. Oui, donc c'est le dossier Attila, hein, que vous avez coécrit avec Cataline Escher et Yaroslav, et vous-même, Yaroslav, je suis fatigué. Donc, toujours chez Actes Sud, hein, abondamment illustré. Et puis, je rappelle que vous avez aussi consacré plusieurs ouvrages donc, aux thématiques ukrainiennes. Hein. L'année dernière, un ouvrage donc, consacré à l'histoire de la Crimée, des Toro-Tatars, un ouvrage d'ailleurs qui pourrait nécessiter une mise à jour, hein, vu les événements qui ont eu lieu donc, juste après la sortie de l'ouvrage, donc l'annexion de la Crimée par la Fédération de Russie. Vous avez aussi écrit une petite histoire de l'Ukraine, hein, Ukraine, une histoire en question, qui, au risque de me répéter, est d'une actualité urgente, justement, pour essayer un petit peu d'aller au-delà des clichés et des idées préconçues sur ce pays qui en est un. Une identité enracinée sur un territoire, comme vous le formulez, et qui correspond, je pense, bon, à la réalité de cette nation qui est en train de naître, hein, dans le sang et dans les larmes, hein, dans les tourments et dans le chaos ambiant, sur le plan géopolitique, sur le plan intérieur, mais là aussi, des questions qui sont toujours intéressantes, sur lesquelles il est toujours intéressant de revenir, surtout pour éventuellement offrir un son de cloche différent. Donc, cher Yaroslav, un mot de la fin pour donc clore un petit peu cette évocation de ces populations nomades. Donc, vous êtes toujours, vous avez toujours le feu sacré pour rester dans cette ère en quelque sorte de.
Oui, parce que le sujet est inépuisable, et notamment ce volet des liens avec les autres civilisations et de l'influence des nomades.
Très bien. En tout cas, je vous remercie, hein, une fois de plus, cher Ossane, nous avons fait le plaisir et l'honneur d'être présents aujourd'hui à cette émission. Je rappelle que vous étiez à l'écoute du Libre Journal des lycéens, dirigé aujourd'hui par Pascal Lassalle. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission dans de nouvelles aventures historiques et métapolitiques. Au revoir.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le Libre Journal des lycéens, dirigé par Pascal Lassalle, préenregistré le 27 mars 2015, diffusé samedi 4 avril de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30, dimanche dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.